Alors, le message est adressé aux adultes. Il y a quelques plus jeunes ici, mais je vais simplement leur demander de penser pendant le message à ce qui se passe dans la cour de récréation. Ok ? Vous allez comprendre comme ça, vous allez comprendre le message, si vous pensez à la cour de récréation. Alors, c'est parce que je parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Je vais m'arrêter quand même plus à l'homme naturel aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, mais on n'a pas le temps en fait d'examiner l'homme spirituel, donc Dieu voulant. On le fera un dimanche à venir. Mais bah, de temps en temps, il faut reprendre les choses et les revoir telles qu'elles sont. Redire ce qu'est l'homme naturel. Sachant que s'il n'est pas spirituel, il est forcément naturel. On est soit l'un, soit l'autre. Et tant qu'on n'est pas devenu un homme spirituel, on reste cet homme naturel. Et je le prends à partir de l'épître aux Éphésiens en particulier, à chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ben, l'homme naturel, donc, il est mort spirituellement, vous étiez mort. Mais donc, il est pécheur, tout simplement. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. C'est un homme qui pêche. C'est très simple. L'homme naturel, c'est un homme qui pêche. C'est un homme pécheur. Il est dans son élément, dans le monde. Le monde tel qu'il fonctionne, le monde visible, le monde tel qu'il se construit, le monde tel qu'il évolue. Voilà, son milieu, c'est le monde. Dans lequel, donc les péchés, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Et enfin, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il se trouve dans la rébellion envers Dieu. Ça, c'est l'homme naturel, il est pécheur, il évolue dans un monde tel qu'il s'est construit loin de Dieu, et il se trouve dans la rébellion envers Dieu. C'est un homme qui est rebelle à Dieu. Et de là, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Personne n'échappe à cet état. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et donc, cet homme pécheur, séparé de Dieu, rebelle à Dieu, eh bien, il a une production qui lui est propre, et cette production, ben, c'est une âme qui produit des convoitises, puisque nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, pas seulement selon les convoitises du monde, que le monde nous fait avoir, mais selon les convoitises qui sont en nous-mêmes, les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc cet homme naturel, il a une âme qui produit des convoitises, et il se soumet à ces convoitises, et à ce qu'il peut penser par lui-même, ses propres pensées. Ça, c'est ce qu'il produit, des convoitises et des pensées qui sont indépendantes de Dieu, qui sont ses propres pensées qu'il veut accomplir. Et de ce fait, il se trouve sous la colère de Dieu. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Des enfants de colère, des enfants qui sont exposés à la colère de Dieu. Si nous le prenons dans Colossiens 1, 21, eh bien nous lisons « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Et puis, au chapitre 3, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc cet homme rebelle, il est sous la colère de Dieu. Il s'expose à la colère de Dieu, il provoque la colère de Dieu. Alors maintenant, avec le chapitre 4 d'Éphésiens, eh bien on va plus loin dans la description de cet homme pécheur, rebelle, ennemi de Dieu. 4 versets 17 et 18 déjà, qui reprend cette affirmation. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. De là, verset 19, ayant perdu tout sentiment, dans notre traduction tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc c'est un homme qui a perdu le contrôle de l'esprit sur lui et qui est donc livré et qui se livre au dérèglement. Et mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, bien entendu. Et bon, je continue la lecture, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ici, tout simplement, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui ment. Il est menteur. Il pratique le mensonge très facilement. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bah, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui se met en colère, mais qui non seulement se met en colère, mais entretient la colère. Verset 27. Donc, et ne donnez pas accès au diable. 28 plutôt. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc l'homme naturel, c'est quelqu'un qui vole. Plutôt que de gagner sa vie, honnêtement, c'est quelqu'un qui trompe, qui vole, qui prend ce qui n'est pas à lui. Et si nous allons prendre une référence dans 1 Thessaloniciens 4, 16, bien nous trouvons non, 4, 6, pardon. Vous avez été un prix, donc, alors, verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Donc, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui fraude, qui... dans les affaires, veut trouver un profit injuste. Et puis, verset 28 de Éphésiens 4, 29 plutôt, je me suis sauté un verset, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Donc, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui parle mal. Ça commence à faire beaucoup de choses. Hein. Et verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui entretient les mauvais sentiments, les protestations, qui lance des accusations infondées et qui fait du mal aux autres. Donc je reprends toutes ces choses. Quelqu'un absorbé par, en quelque sorte, la gloutonnerie sensuelle, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui entretient la colère, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui entretient les mauvais sentiments, qui est toujours dans la protestation, qui lance des accusations infondées et qui fait du mal aux autres. Ça, c'est l'homme naturel. Mais ça continue au chapitre 5, verset 3. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. » Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est donc aussi quelqu'un qui évoque sans réserve les mauvaises choses, qui parle mal dans le sens de dire des choses grossières, des choses équivoques, voilà, toutes ces choses-là, qui a un langage qui est marqué par toutes ces choses. Mais en plus, au verset 12, 11 et 12, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire tout ce qu'ils font en secret. Quelqu'un qui en secret se livre à des choses honteuses. Et puis, verset 18 en plus, qui s'enivre, ne vous enivrez pas. Bon, à part ça, chapitre 2 de Colossiens, verset 8, on voit que cet homme naturel peut quand même se donner une apparence plus respectable en se dotant de philosophie. Verset 2, verset 8, prenez garde que personne ne vasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Et puis au verset 21 et 23, bon, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc, cet homme naturel, il est capable quand même de se doter de principes, de réflexions qui lui donnent une apparence de sagesse, surtout lorsqu'il est quand même instruit des choses religieuses. Il va chercher à donner le change et à apparaître quand même comme quelqu'un de respectable en adoptant des philosophies et des principes qui semblent être ceux de la sagesse. Donc il n'apparaît pas toujours comme étant directement mauvais. Mais quand même, la liste est complétée donc dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, c'est déjà été nommé. L'idolâtrie, ça c'est ce que les prophètes dénoncent en permanence, c'est contre cela que toute l'écriture s'élève, mais l'homme naturel, effectivement, c'est un homme idolâtre. La magie, on n'en parle pas souvent, mais l'homme naturel, l'homme pécheur, l'homme rebelle à Dieu, c'est un magicien, il pratique la magie. Vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul a prêché à Éphèse, au bout d'un certain temps, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques vinrent confesser ce qu'ils avaient fait et ils brûlèrent leurs livres publiquement. Sur la place publique, ils se sont démarqués de toute la magie qu'ils pratiquaient et qui était inscrite dans ces livres, parce que la magie, elle a toutes sortes de façons d'exister. Et donc, une œuvre de la chair, c'est la magie. Les rivalités, les querelles, les jalousies. On oublie peut-être trop facilement que l'homme naturel, c'est un homme jaloux, qui jalouse son prochain. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Autre aspect, se séparer sur des mauvais motifs d'avec les frères et sœurs. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste n'est pas exhaustive. Nous sommes appelés nous-mêmes à réfléchir à quelles sont ces choses semblables qui sont marquées du sceau de la convoitise, de la rébellion à Dieu et finalement de la corruption. Alors, nous partons tous de là, en fait, de ce potentiel mauvais. Et je peux dire vraiment que c'est parce que Dieu a pris des dispositions pour que nous ne soyons pas systématiquement envahis et détruits par le mal que nous pouvons continuer à subsister individuellement et en humanité. Sinon, ce que produit l'homme naturel, c'est une destruction de la vie et des relations. Et quand Dieu nous laisse à nous-mêmes, eh bien, c'est la situation qui est décrite dans Romains au chapitre 1, les versets donc 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ça, c'est lorsque Dieu livre l'homme à son état naturel. Par la grâce qu'il fait, il n'a pas permis jusqu'à ce jour que ces choses se répandent et se déclarent dans leur totalité, mais c'est ce qui est en train de se faire. Et l'apôtre dit qu'au temps de la fin, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, ces deux passages que je n'ai pas notés parce que je me suis souvenu après, 2 Timothée 3, 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On pourrait remonter dans l'Évangile où le Seigneur dit aussi très vite toutes les mauvaises choses qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais ici, on a quand même un tableau assez complet de ce qu'est l'homme naturel, de ce qu'il est dans sa racine, séparé de Dieu, ennemi de Dieu, et dans ses fruits, dans ce qu'il produit, c'est-à-dire tous ces traits caractéristiques de la méchanceté, de la corruption, de l'immoralité, etc., etc. On ne va pas tout reciter. Ça, c'est l'homme naturel. Et nous, chrétiens, comme l'apôtre dit, nous étions de leur nombre. Il y a quand même eu un véritable changement qui a été opéré pour nous lorsque nous sommes venus à Christ. Mais de temps en temps, nous devons être rappelés à l'ordre. C'est ce que fait Paul à Tite 3, versets 1 à 3. Rappelle-leur aux chrétiens, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc nous étions du lot, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est notre fond à tous et si nous ne veillons pas, en fait, ces choses naturelles reprennent possession de nous. Mais donc, on doit déjà, de temps en temps, on peut dire avoir une piqûre de rappel, pour nous dire, attention, ne reviens pas à ce que tu es dans ton être naturel. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que, versets 4 à 7, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà l'œuvre de l'amour de Dieu qui nous sauve de ce que nous sommes dans notre péché et qui nous équipe par le Saint-Esprit, qui nous donne le Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit, ça c'est ce qui va faire la différence. Pardonner de nos péchés et équipé par le Saint-Esprit. Et de ce fait, placé dans une autre perspective, non pas vivre pour ce monde présent et s'accomplir et briller dans ce monde, mais vivre en fonction de l'héritage éternel qui nous est promis. Et je continue les jusqu'au verset 11. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il y a aussi, dans Timothée, la deuxième, chapitre 1, versets 6 à 11, un rappel de ce que Dieu a fait en notre faveur par sa seule bonté, par sa seule grâce, sa miséricorde. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc c'est l'initiative de Dieu de nous accorder ce pardon, cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Et avec toute cette vie nouvelle qui est recherchée et travaillée par le chrétien, alors, l'homme naturel s'efface. Je ne dis pas disparaît, mais s'efface. Si nous ne recherchons pas et si nous ne travaillons pas la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ, eh bien, l'homme naturel s'impose à nouveau. Et pour revenir aux enfants, eh bien, dans la cour de récréation, s'il n'y a que des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas son amour, qui ne connaissent pas sa grâce, eh bien, ça continuera à être les cris, les disputes, les « tu m'as pris ceci, tu m'as pris cela », et ainsi de suite, hein, et je te pousse et je te repousse, toutes ces choses-là. C'est ce que vous vivez dans la cour de récréation, c'est ce que la société vit dans son ensemble. Parce que c'est l'homme naturel. Donc, il ne faut pas vous étonner ni du harcèlement, ni de toutes ces choses-là. Tout ça, ça fait partie de la vie de la société et des hommes tels qu'ils sont sans Dieu. Et il faut vous trouver des amis qui connaissent quand même un peu Dieu et le Seigneur Jésus pour pouvoir vivre des relations plus belles. Alors, nous devons tenir compte de ce que nous sommes naturellement, mais surtout de ce que Dieu a fait en nous sauvant. Il nous a tirés de tout cela par sa grâce, en dépit de cette nature du péché et de toute sa production. Dieu est venu vers nous pour nous prendre à lui, pour se réconcilier avec nous, pour nous ramener dans sa vérité, dans sa justice, dans son amour, dans sa paix, dans tous les bons fruits qu'il veut que l'homme porte. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, nous ne sommes plus des ennemis, des étrangers à sa vie. Donc, ça veut dire que tant que nous sommes dans cette perception de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous, on peut dire que la racine est coupée. La racine de l'homme mauvais est coupée. Donc, la production mauvaise, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tarit. Toutes ces mauvaises choses qui nous habitent naturellement, lorsque nous trouvons la vie qui est en Jésus-Christ, lorsque Dieu nous fait grâce de nos offenses, eh bien toute cette mauvaise production se tarit. Ces mauvaises œuvres se... Alors soit on peut dire diminuent, mais en définitive finissent par vraiment disparaître. Il ne peut pas en être autrement. Si nous recevons avec foi le témoignage de Christ, nous devenons, c'est l'autre aspect qu'il faudra redévelopper, des hommes spirituels qui marchent totalement différemment de cet homme naturel. Aucune des mauvaises choses qui nous dominaient ne peut garder ses droits sur nous. En particulier, tous ces aspects de corruption morale n'ont plus lieu d'être dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu qui vit en communion avec son Seigneur. L'impureté, la grossièreté, l'esprit de querelle, l'esprit de jalousie, toutes ces choses-là donc s'effacent pour laisser la place à l'homme nouveau que Dieu a créé en Jésus-Christ. Donc il est bon de rappeler de temps en temps ce qu'est cet homme naturel, parce que, enfin... Oui, il peut quand même faire illusion à certains moments. Il peut se présenter à nous sous de beaux aspects, mais ce qui est vraiment dans son cœur, ce sont toutes ces mauvaises choses, et elles finissent toujours par se manifester à un moment donné ou à un autre. Même ce que l'on peut penser, je vais vous dire, j'étais quand même très surpris, déçu, j'ai été déçu récemment, parce qu'il y avait un homme politique qui me semblait quand même quelqu'un de correct, qui était à l'œuvre pour, avec pondération, réflexion, être en charge du dossier de réforme des retraites. Et j'avais vraiment une bonne estime de cet homme. Eh bien, écoutez, j'étais franchement très déçu de savoir qu'il touchait à peu près 5 000 euros par mois pour être président d'honneur d'une association. Sincèrement, c'est l'homme naturel. Là, je suis concret, je donne un exemple, parce qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose de l'homme naturel pécheur. Ça, c'est dans l'ordre des choses, et même lorsqu'on pense que, eh ben non, non, on est quand même, au bout du compte, déçu. Donc l'homme naturel, l'homme pécheur, l'homme qui ne vit pas en Christ, ne peut pas être notre référence. Nous devons vraiment chercher la vie nouvelle et les exemples, les témoignages de ceux qui ont une vie sanctifiée, non seulement qui connaissent la grâce d'avoir été sauvés, mais qui de plus marchent vraiment dans cette grâce et cette proximité du Seigneur. Parce que lorsque nous nous confions en l'homme, même s'il a été touché par la grâce de Dieu, et qu'il reste quand même un homme naturel, eh bien dans ce cas-là, nous pouvons aussi être déçus à certains moments. Donc, armons-nous d'un esprit de sagesse, de force, d'amour, pour vivre, nous, le témoignage de notre vie nouvelle en Jésus-Christ, et faisons en sorte d'éliminer par la foi et l'influence du Saint-Esprit toutes ces mauvaises manifestations qui peuvent encore nous surprendre. Et lorsque l'apôtre dit qu'il n'y ait aucune parole grossière dans votre bouche, oui, effectivement, vous, chrétiens, faites en sorte qu'il n'y ait jamais aucune parole grossière dans votre bouche. Ce n'est plus conforme à votre nature nouvelle en Jésus-Christ. Faites en sorte qu'il n'y ait en vous aucune jalousie. Démasquez la jalousie qui peut se trouver encore dans vos cœurs. Faites en sorte d'être en esprit de dispute avec personne, que ce soit d'ailleurs avec vos frères et sœurs ou avec les gens de ce monde. Laissez tomber toutes les protestations, l'esprit d'émeute et de révolte qu'il y a au sein de ce monde. Ne vous associez pas à ceux qui crient dans les rues. Ce n'est pas eux qui apportent le royaume de Dieu non plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Recherchons la paix, la grâce avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen.